siège en velours. Laissons le monde autour. Emmène-moi au cinéma, voir l'amour crever l'écran. Emmène-moi au cinéma, voir l'amour crever l'écran. Emmène-moi au cinéma.
Les voix de femmes.
Des choses à jar.
Голос женщин.
صدای زنان.
Генерас умуни.
Мусол ла ла денди.
Une conversation libre sur les conditions de la femme entre femmes de ici et d'ailleurs.
On est sur Studio Zef et c'est la première de cette nouvelle émission, Les Voix des Femmes, animée par Lisa Karimi. On a autour de la table Kadiatou, Awa, Chirine et Véro. Et l'objectif, eh bien, c'est d'échanger sur ce que c'est que la condition de femme, c'est quoi être une femme en France et ailleurs. Kadiatou, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Kadiatou. Prénom, c'est Kadiatou. Nom de famille, c'est Doumbouya. Suis guinéenne, Guinée-Conakry. D'origine guinéenne, nationalité guinéenne. Suis en France ici 1 an, 2 mois. Je suis avec ma fille, petite fille. Elle s'appelle Asia Kourouma.
C'est tout. Ok, merci Kadiatou. Awa.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Mara Wassila. Je suis guinéenne, je suis venue en France, ça fait 11 mois. Je suis en demande d'asile. Bon, je suis avec ma fille, elle a 2 ans et demi. Bon, c'est ça.
Ok, merci. Et Chirine, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour à tous. Je m'appelle Chirine Salehi. Je suis née en Corée, en Iran, mais je suis afghane. J'ai 27 ans. Et c'est la fête en hiver, 8 mois que je suis en France.
Merci. Et Véro, au micro, alors que certains connaissent ici, sur les ondes de Zef.
Bonjour, je m'appelle Véronique Malka, je suis française, je suis née à Paris et je suis dans le Loir-et-Cher depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je suis ravie de participer à cette émission.
Donc on le rappelle, là Alice au micro pour cette première édition, pour la lancer. Mais on rappelle que c'est donc une émission qui a vocation à permettre de discuter, d'échanger dans différentes langues. Parce que à l'animation, on a Lisa qui est polyglotte. Lisa qui parle russe, anglais, dari, pashto, français. Et Lisa qui va prendre mon relais. À toi, Lisa.
Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans cette émission. Et merci pour être là parce que c'est une mission très importante pour nous femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, premièrement, que nous sommes de différentes origines. Et le deuxième point, parce que nous sommes là à France, ça veut dire tous assemblés là, de différents pays, de différentes cultures, et dans un pays qui est ouvert pour les gens comme nous. Et quand même pour parler par rapport à différentes choses qui arrivaient, comme une femme qui venait d'Afrique, comme une femme qui venait d'Afghanistan, et aussi parler avec une femme française qui est là, qui peut parler avec nous par rapport à la vie d'une femme française. C'est pas comme représentante de toutes les femmes françaises, mais elle peut nous donner son avis. Par exemple, comme il raconte les réfugiés, comme il raconte les gens de différents pays, il pense quoi? comme elle. Et peut-être ses amis aussi, il a parlé de tout ça. Et donc, voilà. Et je veux bien poser la question à chacun de vous. Et vous êtes aussi libre ici de parler entre vous aussi, de discuter si vous avez des questions. De, par exemple, si Véronique, il y a des questions de poser à Chérine par rapport à Afghanistan ou par rapport à Afrique, si vous avez aussi des questions. Donc, c'est une table qui parle librement, comme une discussion entre les femmes. Donc voilà, et je veux bien que commencer par notre première question, et je pose à Chérine, parce que je voudrais vraiment savoir le but qu'il est venu ici à France. C'était quoi, c'était quelle raison pour laquelle tu es là aujourd'hui à France?
Quand je suis arrivée en France, j'étais enceinte de 7 mois. Avant de partir, j'étais très excitée. Car je pensais à mes rêves et à mes objectifs. Mais quand je suis arrivée, toute cette excitation est partie. Elle a été remplacée par une grande tristesse. Tout est différent et on sent sans sol. La famille et les amis nous manquent beaucoup. Si on veut une bonne vie dans le pays d'où on vient, c'est encore plus dur. Il faut s'adapter à une nouvelle vie et quand on est ensemble, c'est encore plus difficile.
Merci beaucoup, Chérine. Je pense que Chérine, elle était absente, donc il attendait son bébé. Mais malheureusement, quand il est arrivé ici, donc malheureusement qu'il a perdu son petit enfant. Mais par contre, vous voyez que Chérine, elle essaye de parler français. Un petit peu. C'est déjà une intégration dans la société française. Donc, Audi, bravo à Chérine. Donc, je vais bien poser la même question à Marwa. Quelle était votre raison?
Ok. Je vais commencer d'abord. Ce n'est pas facile de laisser ta famille, tes connaissances, ton pays où tu es né. C'est le pays que tu connais nulle part, et puis laisser tout comme ça, quitter dans ce pays, venir dans un autre pays. Là, si les autres vont penser que c'était juste venir pour voir la France ou bien quoi, la France, c'est comme ça. Non, pour nous, c'est pas comme ça. Si c'est pour les autres, c'est comme ça, mais pour nous, c'est pas comme ça. C'est beaucoup de raisons qui nous ont poussé de quitter dans notre pays. Ben, y a beaucoup de raisons. Moi, par exemple, j'ai été forcée de, un d'abord, parce que je peux dire comme ça, forcée de me marier. Deux, j'ai fait une témoignage et puis c'est retombé sur moi-même. Donc, ça fait, j'étais avec quelqu'un et puis on lui a frappé même jusqu'à son pied est cassé. Donc, j'ai tout essayé, j'ai tout fait comme ça n'allait pas. Ma vie était en danger. Même ma fille, on voulait me retirer ma fille. Donc, c'est pourquoi je suis quittée de la Guinée et puis je suis passée par le désert. Venir jusqu'à ici, venir quitter de la Guinée, venir au Mali. Mali, je suis venue en Algérie. Algérie, je suis venue en Tunisie. Arriver en Tunisie, c'était très, très difficile. Mm-hmm. Parce qu'on était obligé même, par la fin, on dormait au dehors parce qu'il n'y avait pas la maison. Mm-hmm. Avec les Tunisiens, ils nous refusaient de nous louer la maison. On louait, mais après, par fini, ils nous ont fait sortir. On était obligés de partir au village. Mm-hmm. Les kilomètres 19, par exemple, moi, j'étais au kilomètre 19. Je dormais là-bas avec ma fille, avec le père de ma fille. Bah, c'est là-bas qu'on a fait, jusqu'à on a fait la traversée pour venir en Italie. Okay. Italie, et puis je suis venue ici en France.
Mm-hmm. Donc, c'était un trajet illégal et c'est pour votre protection et protection de votre fille.
Oui.
Comme une femme, comme une maman qui est toujours là pour son enfant. Oui. Merci beaucoup, Marwa. Je laisse parole à
Kadiatou.
Kadiatou.
Alors, Kadiatou, rapprochez-vous un tout petit peu du micro. Je n'interviendrai que pour dire rapprochez-vous du micro.
D'accord. Je vous écoute. Dis-moi, quelles étaient les raisons qui t'ont poussé de quitter ton pays d'origine comme parler Marwa, comme parler Chérine, c'était une raison qu'ils ont été obligés. Est-ce que toi aussi, tu étais obligée vraiment de quitter ton pays ou c'était ton choix?
Bon. Moi, j'ai 2-3 enfants. 2 filles, 1 garçon. J'ai laissé mes 2 enfants en Guinée. C'est quand tu as vu, femme, elle a fait des enfants. Elle a laissé son enfant pour passer au désert, après pour passer au Méditerranée, pour arriver ici. Donc c'est quelque chose qui ne va pas chez nous. Si ça va chez nous, on ne va jamais laisser notre enfant derrière de nous. Après, on vient ici. Donc ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé de m'arriver ici. Donc en fait, c'est un mariage forcé. Il y a beaucoup de... Parce que j'ai vécu des mariages précoces une fois. J'étais à l'âge de 14 ans. Après, mes parents, ils voulaient me donner un mariage forcé encore. Après, ils voulaient l'excuser ma fille, l'excision génitale jusqu'à présent. Parce que ma première fille, là, elle a été de l'excision. C'était derrière de moi. Mes parents, ils m'ont appelé. On a fait de l'excision de ta fille. Donc, moi, je n'ai pas de soi, moi, je n'ai pas de force. Donc, je ne peux rien faire, quoi. Si je suis en Guinée, je ne peux rien faire sans concernant de mes parents. Donc, c'est ça qui m'a poussé ici. C'est ça qui m'a poussé ici. Je traverse des déserts, la Guinée au Mali. Après Mali ou Algérie. Après, je me suis retournée à... au Niger encore, à Samaka. Mm-hmm. Au Niger, ils m'ont envoyé au refoulement au Niger. Après, je me suis retournée en Algérie. Parce que j'ai fait en Algérie un an. Après, Algérie, Espagne. Après, Espagne en France ici.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Comme vous voyez, c'est une trajet très dur pour passer par voie illégale en plus. Et avec les enfants, c'est pas facile. Donc bravo les femmes, vous êtes vraiment très fortes. Et pour ne pas laisser Véronique sans parole par rapport à tout ça, est-ce que vous avez votre avis qu'est-ce que vous pensez de toutes situation où on a barrière de visa, où on a problème diplomatique avec les plusieurs pays pour ne pas laisser les réfugiés de venir ici. Donc, au gros, qu'est-ce que vous pensez de réfugiés qui viennent ici? Donc, pour vous, comme une femme française, pour votre pays, vous pensez quoi par rapport à toute cette situation?
Encore une fois, enfin, c'est une question très difficile. Encore une fois, c'est malheureusement... Enfin, les histoires que j'entends, ce sont des histoires que j'entends depuis toujours. C'est désolant de dire ça, mais ce sont des histoires que moi, j'ai entendues, d'ailleurs, dans ma propre famille. Et c'est des histoires, effectivement, de déplacements involontaires ou forcés. Ou de toute façon, voilà. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que, en général, quand les gens ne connaissent pas les situations de personnes réfugiées ou exilées, la première chose qu'ils ont en tête, c'est de dire que... c'est de poser la question, mais pourquoi ils ne restent pas dans leur pays? Alors, je n'ai pas très envie de dire que la France est un pays raciste. Mais malgré tout, quand on se réfère à certaines périodes de l'histoire, c'est un pays à la fois des droits de l'homme, mais en même temps très réticent à tout ce qui peut paraître étranger, quoi. Mais c'est valable pour tous les sujets. Hein. C'est mon opinion. Ouais. Ça n'engage que moi, encore une fois. Voilà.
Bien sûr. Merci beaucoup, Véronique. Oui, c'est ça. Donc, chaque pays, il y a son avis par rapport à l'étranger. Et comme Véronique l'a expliqué, c'est bien ça. C'est pas tout à fait... On ne peut pas dire que c'est juste ou pas juste, mais c'est comme ça. Chaque pays, son propre policy, chaque pays, son propre avis. Mais j'espère que ça changeait un peu positivement. Donc, on a parlé de danger, on a parlé de protection et vous êtes là tous ici pour vous protéger. Donc, maintenant, je veux bien savoir si vous êtes senti vraiment être protégé ici ou pas.
pour votre vie? Est-ce que vous vous sentez maintenant dans la sécurité? Est-ce que ça sera mieux ou pas? Ou est-ce que vous avez maintenant pensé d'autres choses? Est-ce que vous avez pensé d'autres sécurités, par exemple? Est-ce que vous êtes dans sécurité mentale ou pas? Est-ce que psychologiquement, vous êtes en sécurité ou pas? Maintenant, dites-moi, vous vous sentez comment ici?
Prendre soin de son enfant devient alors le plus grand joie de la vie. Mais que faire si cela ne se passe pas comme prévu? Comment sortir quand on porte son enfant? C'est la question qui expliquait ma situation depuis 5 mois. C'est avec cette question que je vais. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie d'être une femme immigrée qui a perdu son enfant. Il n'y a presque aucun moyen d'être avec sa famille. On n'a pas d'amis, personne qui parle pour nous réconforter. Pourtant, dans ce moment, on a besoin de soins, d'amour et de compréhension. Aller chez un psychologue est presque impossible. Chez un psychologue, c'est presque impossible. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de psychologue en France, mais si on parle à peine français, comment peut-on discuter avec un psychologue pendant une heure?
Merci beaucoup, Chérine. Et en fait, je veux parler avec Chérine un petit peu en autre langue, car Chérine, il est là depuis 7 mois, donc il ne parle pas, vous voyez, il est ici, il parle bien français, mais quand même, comme il a expliqué qu'on a un psychologue, mais quand on ne parle pas de langue, quand il y a barrière de langue, donc c'est difficile. Ça, c'est ce que Chérine, il a dit.
خب طبعا وقتی که فرزندت از دست میتی مشکل روانی یعنی سوگ بسیار دردناکی برای هر انسانی میباشه همیشه مثلا دکترها حتی من رو میگفتن که با خانوادت باید در ارتباط باشی با دوستایت و همچنان بهترین راه حل بر آدمی است که با روانشناس گپ بزنه و سعی کنه کم کم این غم یا این سوگ که کتیش کنار بیایه یا بتان زندگی خود ادامه بدم ولی متاسفانه وقتی که در یک جامعه باشی که مهاجر هستی و به اون زبان کمتر میتونی صحبت کنی خب مخصوصا اگه زبان انگلیسی زبان رسمی و کشور نباشه بیشتر برات سخت است
بله.
و این مشکلی که من داشتم در شهری که ما هستیم دو تا روانشناس داشتن که یکی از اونا میتونست کم انگلیسی صحبت کنم تقریبا من 3 جلسه رفتم و هر 3 جلسه ما از گوشی ما استفاده میکردیم تا گپ همدیگر رو بفهمیم و من دیدم که فایده ای نداره خیلی زیاد
Donc, comme Chérine, il a expliqué, il est là. Il est en fait la raison pour laquelle il est là en France. C'était pour protéger son enfant, pour vivre avec son père. Mais malheureusement, quand il est arrivé ici, il a perdu son enfant. Et maintenant, il est dans un problème psychologique. Mais pour parler avec psychologue, il a besoin de comprendre langue. Donc ici, la difficulté que Chérine raconte, c'est barrière de langue. Donc il peut pas, il est dans une sécurité, il est avec son mari, mais en fait, au niveau de langue, c'est toujours reste difficile pour elle de intégrer dans une société française, de parler de tout ce que il voulait. Par exemple, il peut parler avec son famille, mais malheureusement. Ici, c'est toujours difficile pour elle. Donc je veux bien poser la même question à vous, Marva. Est-ce que votre situation, il a changé depuis que vous êtes là ou pas?
Oui, moi je dirais oui. Mais le devis, ce n'était pas facile. Je savais, bah, quand je suis venue ici en France, j'étais à Orléans. Quand je suis partie à Orléans, je n'avais pas un endroit où dormir. Donc, directement, je suis partie. On m'a indiqué à Kualia, qui est de partir à Kualia. Je suis partie là-bas pour dire que je n'ai pas où dormir avec ma fille. On m'a dit, ils m'ont donné un numéro. Je n'avais même pas un téléphone. Parce qu'au moment de quitter de l'Italie jusqu'en France, j'ai perdu mon téléphone. Mm-hmm. Ils m'ont donné un numéro avec... Il y avait des Guinéens à côté et puis ils ont dit déjà là, d'appeler les 115 pour moi. Ils ont appelé et puis les gens l'ont dit, il n'y a pas place pour moi et puis ma fille. Donc on est resté, il y a une dame qui m'a pris dormir là-bas. Mm-hmm. Et puis le lendemain, j'ai appelé 115, ils m'ont pris. Mais j'étais obligée, il faisait froid, je n'étais pas habituée, chez nous c'est pas comme ça. Mais quand je dors là-bas à 115, le matin à 8h, ils nous font réveiller et puis on sort. Mm-hmm. J'étais obligée de venir à la gare d'Orléans. Orléans, de m'asseoir là-bas jusqu'à... Parce que la dame, là, elle dort deux fois avec son mari. Je l'attends quand elle se réveille pour partir nettoyer ma fille et puis me brocher. Si elle a mangé là-bas, je mange. Et puis le début, c'était... Il y avait un endroit où, pour aller dormir, pour aller manger le matin, il y avait même un gars, je ne le connais pas si il est français ou bien il est quoi. Un jour, il m'a insulté, j'ai pleuré là-bas beaucoup. Mais je marchais au fur et à mesure, je partais à Kualia. Ma fille même était enrhumée. Je partais m'expliquer. Jusqu'à un jour, ils m'ont appelé. Ils m'ont donné maison ici à Orléans, ici à Blois. C'était pas facile. Mais mentalement, jusqu'à présent, ça va, mais on s'adapte. Des fois, tu es là, tu es couché. Ah, la France, ils vont me protéger ou bien ils vont pas me protéger. Tout ça là, je ne peux pas. Ça là, je pense, je ne peux pas. Arrêter de réfléchir à des choses là. Parce que tu es là, tu ne peux plus te retourner au pays. Tu es là, est-ce que des fois tu expliques, je me demande si tu expliques ton problème, peut-être on ne te croit pas ou bien ils disent que tu manges, je ne sais pas, il y a quoi. Donc quand même, c'est ça. Quand même, pour le moment, je me sens en sécurité physiquement. Mais moralement d'abord, c'est jusqu'à, je ne sais pas, c'est quand je quitte l'OPA.
Je ne sais pas, bon, tu vas vivre dans une situation incertitude.
Oui, si tu es dans un pays, tu n'es pas d'abord régularisé. Il faut d'abord, même si tu es là, mais tant que tu n'as pas papier, c'est comme si tu n'es pas en France. Tu vis seulement. Ce n'est pas facile. Là, tu ne peux pas... Des fois, moi, je me réveille. Quand je me réveille, je réfléchis. Dès que je me réveille, je peux faire 2 heures de temps. La nuit, je ne dors pas.
Je comprends.
Je prie, donc c'est ça.
C'est quand même.
Physiquement, on est en sécurité. Ouais. La France m'a donné une maison. Je vis bien, je mange. Ils me donnent de l'argent.
Mais avec inquiète tout le temps pour ton futur qui n'est pas clair.
Oui, c'est ça.
C'est ça, malheureusement. Avec le procédure du monde d'asile, c'est toujours comme ça.
C'est
mais
pas
on espère.
On espère.
On ne peut pas perdre notre espération de futur. Il faut rester forte comme vous êtes jusqu'à là.
Thank you.
Je laisse parole à Adiatou. Merci Alice Kutiel.
Oui, parce que au moment que je suis venue ici, c'était très très facile pour moi. Donc c'était très très difficile pour moi parce que je ne parle pas en français ici en Guinée, c'est pas même. Même pour prendre des bus, c'est pas même. Parce que si tu es en Guinée, quand tu prends des taxis, il y a plusieurs personnes qui peuvent rentrer une seule taxi. Mm. Tu vas faire comme ça, taxi va rentrer. Tu peux rentrer dans le taxi. Au moment que je suis venue ici, j'ai parti à Chartres, je suis quittée à Paris. Mm-hmm. J'ai parti à Chartres pour commencer des demandes d'asile là-bas. Okay. Maintenant, dès que j'ai parti à la gare, je ne sais pas prendre des billets pour retourner à Paris. Donc, je pars aux billetteries. Il y a une dame qui est là-bas. Elle m'a demandé, c'est quoi ton nom? Je ne sais pas dire mon nom. J'ai dit, c'est Doumbouya. Est-ce que tu peux dire pour moi pour des phrases? Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas parler en français. Donc, c'était très, très difficile pour moi. Même pour prendre du bus, il faut que je demande de quelqu'un. Je ne sais pas parler en français, pas du tout, même bonjour. Donc, j'étais à Sartre, j'étais là-bas. Mais aujourd'hui, ça va. Parce que le moment que je suis rentrée ici, ma fille, elle était malade. Okay. Elle a un problème de rein. Au moment que je suis venue, elle était gonflée. Donc, ils m'ont hospitalisée à Chartres. J'ai fait là-bas un mois. Il est en train de soigner ma fille. Après un mois, j'étais dormie à 115. Après, ils m'ont orientée à Blois ici. Dès qu'on est venu ici encore, ils m'ont hospitalisée à l'hôpital de Blois. Après l'hôpital de Blois, ils m'ont envoyée à Tours. C'est là-bas qu'on a fait du suivi de ma fille. Même si ici, même tu n'as pas de l'argent, tu viens d'arriver, mais si tu as des problèmes de santé, tu peux te soigner sans l'argent. Tu peux te soigner sans l'argent. Et puis, même si tu ne travailles pas, quand tu fais demande d'asile, tu peux nourrir Resto du Caire, Croix-Rouge, Passerelle, tu peux nourrir partout. Donc, je peux dire ça, Dieu merci. Okay. J'ai une seule problème, parce que quand tu viens ici, tu laisses ton enfant au pays. Donc, tu n'es pas nouvelle de ton enfant. Ton enfant, ils ne sont pas de téléphone. Donc, c'est ça qui m'inquiétait un peu.
Bien sûr, je comprends. Comme maman, c'est vraiment difficile. On a besoin de notre enfant toujours à côté de nous, mais ça va venir. Tu as une femme forte et je pense que finalement, ça va arriver pour tout le monde. Et j'ai entendu beaucoup côté positif, quand même côté négatif. Donc, bien sûr, on a barrière de connaissance de société, on a barrière de langue. Mais en même temps, quand on a espère pour quelque chose, ça va arriver. Ça va arriver avec le temps. Mais heureusement, on a autre système qui nous aide, les systèmes qui supportent. Donc, ça aussi est quelque chose qui est positif dans la société française. Mais je veux bien poser la question à Véronique. Si vous pouvez m'a dit, par rapport à cette procédure de demande d'asile et réfugié, si vous pouvez m'a seulement expliquer quelques points positifs et quelques points négatifs.
Alors là, ça va être très difficile pour moi parce que je ne connais pas bien le sujet. Ce que je peux juste évoquer, c'est je dévie un peu par rapport à votre question parce que je voudrais rebondir en fait sur la force des femmes. J'ai un souvenir comme j'ai eu l'occasion dans mon parcours professionnel de participer à des cours d'alphabétisation dans un quartier dit sensible à l'époque à Paris. Et je me souviens que certaines femmes, majoritairement femmes d'Afrique centrale et femmes d'Afrique du Nord, beaucoup de femmes d'Afrique du Nord venaient en cachette de leur mari, venaient prendre des cours de français en cachette de leur mari. Voilà. Quand vous parlez d'accès à la langue, et ça, j'ai envie de dire pour l'accès à tout finalement, Quand on est une femme dans certaines situations, c'est la double peine, voire la triple, voire la quadruple peine. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un mari qui vous empêche de faire ce que vous voulez, de vous intégrer, d'apprendre la langue, etc., tant mieux. Si vous avez un système français qui vous facilite en fait l'accès, par exemple, comme dit, au médical.
Tout à fait, ouais.
Bon, évidemment, mais chaque personne en France, effectivement, les points positifs, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas mourir dans la rue, bien que ça peut arriver, mais on ne vous laisse pas mourir dans la rue. Voilà. Après. Effectivement, je comprends tout à fait. C'est là où il y a décalage. C'est que quand vous dites « c'est formidable, on mange au resto du cœur, on a un toit sur la tête, etc. » Mais parfois, nous, quand on voit la population qui vient au resto du cœur, justement, ça fend le cœur, quoi. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire, est-ce que on donne des miettes? Voilà, est-ce qu'on donne c'est très, je sais pas comment expliquer la chose, mais c'est assez, en même temps c'est rassurant et en même temps c'est révoltant. Il y a quelque chose comme ça, quoi.
Je me permets d'intervenir. Peut-être ce que tu veux dire, c'est révoltant que ce soit des organisations caritatives qui donnent à manger. Finalement,
exactement, c'est-à-dire que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens, comment fonctionnerait la France s'il n'y avait pas tous ces bénévoles, toutes ces associations qui pallient à un manque humain, mais que devrait faire l'État. C'est l'État qui devrait s'occuper de ça. Ce serait normal que l'État prenne en charge les personnes qui en ont besoin, de manière générale. En fait, c'est une question d'humanité. C'est ça.
Ouais. Merci beaucoup, Véronique. C'est ça. Oui, c'est une question de humanité. Je pense que Chérine, je vais parler avec Chérine en autre langue et je vais faire traduction parce que déjà, c'est un petit peu compliqué pour elle. Mais il parle très bien anglais, mais on a toujours dans pays français. Donc, on va garder notre culte. Donc, Chérine, tu m'as parlé de barrière de langue, tu m'as parlé de barrière de. Difficile d'être intégré dans la société française, donc ton barrière c'est vraiment la langue. آیا کدام موضوع دیگه هم وجود داره که شما خود در فرانسه یعنی خوب احساس میکنین یا بد احساس میکنین؟ مثلا یک چند نقطه مثبت که شما یک به عنوان یک خانم تحصیل کرده که آمدین از یک کشور آسیایی بالاخره به یک کشور غربی که فرانسه هستک، در اینجا شما کدام نقاط مثبت را دیدین در اینجا؟ مثلا وقت از راز فرهنگی، البته فرهنگ از اینا با فرهنگ شما چقدر هماهنگی داره؟ En fait, je veux bien vous dire que c'était quoi mon question. Maintenant, on va parler de culture. Donc, parce qu'on est de différentes origines avec les différentes cultures, je veux bien savoir l'avis de chaque cas par rapport à culture. Quand vous êtes arrivé ici à France, donc il y a quelque chose qui nous choque parce que c'est différent de notre culture, c'est différent de notre habitude dans notre pays. Et en même temps, il y a quelque chose qui dit, oh bah oui, c'est pareil comme dans notre pays. C'est la même chose. Donc, c'était la question que je pose à Chérine. Est-ce qu'il y a un souvenir de choquant ou pas choquant?
بزرگترین نکته مثبتی که بخوام در موردش صحبت کنم طبق شرایطی که خودم دهش بودم چون بهتر میتونم درکش کنم این است که در کل دوره پروسسی که ما در بیمارستان بودم چه بر زایمان خودم و چه مشکلی که بچگکم داشت واقعا تیم پزشکی در
Dans son joli panier, plein de grains de café pour les faire crier. Maman a fait zim, 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 maman a fait zim, comme ça. Maman a fait zim, 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 maman a fait zim, comme ça, comme ça. Des grains rouges, jaunes et noirs, comme des couleurs du soir, récoltés dans les forges avant le réconfort. Maman a fait zim, zim. Maman a fait zim, comme ça, comme ça. Maman a fait zim, zim, zim. Maman a fait zim, comme ça. Attention, on met les mains sur le côté. On est prêt? On va y aller. Zim, zim, zim. Zim, zim, zim. Zim, zim, zim. Aïe, maman a récolté dans son joli panier, plein de grains de café, pour les faire crier. Maman a fait sim, 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 maman a fait sim, comme si, comme ça. Maman a fait sim, 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 maman a fait sim, comme si, comme ça. Des grains rouges, jaunes et noirs, comme les couleurs du soir, récoltés dans les forts, avant le réconfort. Maman a fait sim, 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 maman a fait sim, 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 maman a fait sim, 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 maman a fait sim, comme si, comme ça. Maman a fait sim, 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 maman a fait, comme elle a fait maman. Maman a fait sim, 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 maman a fait, comme si, comme ça. Maman a fait sim, 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 maman a fait, comme si, comme ça. Maman a fait sim, 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 maman a fait sim, comme si, comme ça.
C'est vraiment un système très très bien pour les personnes. Par exemple, si tu as argent ou si tu as pas d'argent, tu vas obtenir le même aide que séparé. C'est égal. Donc ça, c'est ce qui est important. Et Chérine vous a dit que quand, je suis, quand il est arrivé ici, donc il était à Sante, et bien sûr, il avait besoin d'y aller à l'hôpital. Quand il était hospitalisé, il a dit, je ne sentais pas de différence entre moi et une femme française. Donc les services, il était très bien pour elle. Et donc, il voudrait remercier. Et encore, il veut parler de différence et de culture maintenant.
بزرگترین چیزی که من دیدم این که خانوما به خصوص چون خودم یک خانوم هستم در برنامه شوکه انگیز بود که در فرانسه چقدر راحت هستن و میتونن خودشان ابراز کنن، کمتر قضاوت میشن. حتی خود من وقتی میخوام برم بیرون خیلی کمتر ظاهرم قضاوت میکنم، چون بعضی موقع وقتی تحت فرهنگ سلطه‌گر میباشی همیشه باید زن زیبا آراسته. به این معنا نه که نباید اینجوری باشه، به این معنا که یک اجبار برات به وجود میایه. ولی در فرانسه چقدر میتونن راحت هر مدلی که خودشان میخوان و احساس آرامش بهشان میده باشن و خودشان ابراز کنن بدون از ترس از قضاوت شدن یا مورد سرزنش قرار گرفتن.
Donc, Chérine, il a parlé d'une chose très importante pour une femme. Donc, il a dit, comme une femme, quand je suis là en France, j'ai peur pas de jugement. Quand je sors de maison, quand je suis rencontre les gens, j'inquiète pas comment je regarde. Ça vous dit quel vêtement je dois mettre, est-ce que je dois maquiller ou je ne dois pas maquiller. Donc, en fait, d'une culture que Chérine vit, c'était différent. Une femme, être toujours jolie, c'est une obligation, ce n'était pas un choix. Parfois, on n'a pas d'envie de mettre assez maquillage, on n'a pas d'envie de faire quelque chose, de montrer que voilà, on est très jolie. Mais en fait, pour Pii, qui vivait chez Chérine, c'était important, c'était obligation. Mais ici, c'est différent. Ça, c'est ce que Chérine trouve positif. Donc, et différent entre le pays d'origine et ici. Donc, je veux bien poser la même question à Marvin.
La différence des cultures de la Guinée et puis la France, c'est ça. D'abord, si moi je prends habillement, là-bas chez nous, on ne s'habille pas n'importe comment. Et puis, ça dépend aussi des familles, des lieux aussi, des familles. Par exemple, moi, dans ma famille, des fois, il y a nos frères. Même quand ils habillés, un jour, moi, je partais à la révision, parce que chez nous, ce n'est pas comme ça, comme ici en France. Il y a des cours de révision, par exemple, si tu dois faire le bac, le brevet, ou bien examen d'entrée au BEPC. Mm-hmm. Donc, des fois, si je pars, je finis de m'habiller, il me fait retourner directement d'aller changer ce que j'ai porté. Si je porte pantalon, même si c'est gros, mais j'étais obligée d'aller changer. Mm-hmm. Si c'est nous aussi, ça dépend des familles, quoi, c'est ça que je dis. Il y a d'autres familles qui acceptent, il y a d'autres familles qui n'acceptent pas. Par exemple, moi, j'étais obligée d'attacher mes cheveux jusqu'à maintenant, la même que je suis habituée. J'étais obligée même. Jusqu'à un jour, moi-même, un jour, je suis dans la classe. Il y a mes habits. Bon, ils se demandent même qu'est-ce qu'il y a sur ma tête, s'il y a les cheveux ou puis il n'y a pas les cheveux. Il y a une de mes copines, elle est venue tirer ma fleur ici comme ça pour que tout le monde voit sur ma tête. Bah, ici, tu es là, quand même, tu es libre. on te dit c'est ça, tu n'as pas oublié. Mmh. On te dit A, toi tu ne peux pas dire B. Si on te dit A, c'est A. D'accord. Tu n'es pas obligé de parler. Des fois même, tu veux t'exprimer. Moi-même, ça m'est arrivé. Mmh. Des fois même, si il y a quelqu'un qui t'a frappé dans la famille, mais ou bien quoi, tu veux t'exprimer, on te dit ferme ta bouche. Ne parle pas. Et ça, même s'il y a des femmes mariées que les maris n'acceptent pas qu'ils s'expriment, tu parles seulement, on dit tu es mal éduqué, et puis tu es impoli, même ce que toi tu veux dire. Mm-hmm. Même par rapport à maquillage, comme elle a dit, c'est nous-mêmes, tu mets maquillage d'une façon, tu mets rouge à lèvres, on va te dire que tu es prostituée. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc c'est il y a des cérémonies que les femmes se marient, mais toi, tout le temps, tu te maquilles et puis tu fais comme ça. Ils vont te classer autrement. Même il y a des traits, si tu fais, ils vont te classer autrement, même si tu n'es pas comme ça. Mm. Même si tu mets des roubaix, il y a des ans. Donc, ils vont te classer autrement, quoi. Chaque fois, toi, tu fais ça, ils vont penser autrement de toi.
Donc, comme mais une femme, pas de liberté du tout.
Non, il y a, bon, ça dépend des familles aussi. Hein. Mm-hmm. Ça dépend des familles et puis ça dépend des parties de la Guinée. Ça aussi, je peux parler comme ça.
Okay. Merci beaucoup, Mava. Mm-hmm. Et Kadiatou, s'il vous plaît. En fait, quand tu es arrivée ici à France, c'est ça? Donc, tu es venue de différentes cultures.
Oui.
Donc, quelle est la différence entre la culture française et votre? Et est-ce qu'il existe quelque chose qui apparaît, par exemple?
Oui, il y a beaucoup de différences ici entre en Guinée. Mm-hmm. Parce que ici, quand tu es ici, personne ne va te toucher ton dignité. Mm-hmm. Donc, quand tu es en Guinée, si tu es une femme, tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de droit de faire quelque chose sans que ton mari n'ait pas décidé. Tu n'as pas de droit. Même quand tu es assis au 16, soit au fauteuil, quand ton mari il vient, c'est toi, femme, qui va quitter ton mari. Il va s'asseoir, sa place. Bon, il y a, c'est ça, il y a beaucoup de différences. En fait, encore moi, ma famille, ils sont des Wahhabia, parce qu'il y a des mm-hmm. musulmans, il y a des Wahhabia encore,
okay.
en Guinée. Mm-hmm. Parce que moi, ma famille, même si quand tu t'es habillé, des habits africains, c'est interdit de ma famille. Donc, tu dois t'habiller des habits noirs. Tout ce qui est noir, sauf le visage qui va sortir, même tes pieds, tu vas mettre gants noirs, avec gants pour les mains, noirs. Mm-hmm. Bon, moi, je les déteste. Mm-hmm. Donc, moi, avec ma famille, on était tout le temps, on était palables. Mm-hmm. Même si quand tu pars aux boîtes de nuit, quand tu viens à 3h, soit 4h du matin, tu vas trouver ton frère, ton grand frère, avec son père, il t'entend là-bas. Quand il rentre, il va te frapper comme il voulait. Mm-hmm. Donc, moi, ma famille, c'est comme ça. Même, tu ne peux pas porter de même jupe, mm-hmm. jupe complet. Tu ne peux pas porter même jupe complet, pantalon. Tu ne peux pas porter même pantalon. Même dans ta chambre, mm-hmm. tu ne peux pas porter des pantalons.
Mais ici, quand vous êtes là en France, donc, est-ce que vous sentez la liberté? Est-ce que vous avez votre liberté? Parce que vous parlez que c'est vraiment interdit de parler, interdit de s'habiller comme vous voulez. C'est Marie qui décide, comme Véronique déjà aussi parlait, qu'il y a certaines femmes africaines qui sont là, mais elles ne pouvaient pas accès aux éducations parce que c'est Marie qui ne veut pas. Donc, mais pour vous, est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez votre liberté déjà ici à France ou pas?
Oui, c'est ça que je parle comme ça. Parce que quand tu es en Guinée, tu n'as pas de liberté, tu n'as pas de dignité. Mm-hmm. Mais ici, personne ne va te pousser ta dignité. Personne ne va te moquer de toi. Tu es comme ça. Donc, c'est ça la différence. Mm-hmm. On a beaucoup de liberté ici. Parce que le moment que moi j'étais à Chartres, je viens d'arriver. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu peux marcher même 50 mètres, mm-hmm. si policier va te prendre. Moi, je ne savais pas. Quand je marchais, même ici, je vais faire comme ça. Je regarde partout, s'il n'y a pas de policier. Mm-hmm. Même quand j'ai vu des policiers, voitures de policiers qui passent, je me suis retournée mm-hmm. au 115. Oui.
Oh. Et Pour vous, Marvin, est-ce que vous sentez la liberté ici à France?
Oui, moi, je sens la liberté ici. Si quand même je suis là, tu, quand même, tu respectes les lois et puis ça va. Les lois qu'ils ont dit, qu'ils ont interdit, mais personne ne t'exige à faire comme ça. Comme, déjà, il y a la loi. On te dit, faut pas faire ça. Mais exercer comme ça, comme chez nous, non, c'est exagéré. Quand même, ça va.
Ça va. Avant de poser la même question à Chérine, je veux bien savoir qu'est-ce que pense par rapport à ça, Véronique. Est-ce que comme une femme française, elle sent liberté ou pas encore?
Oula. Disons que, alors toujours par rapport à mon expérience, je crois que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pris ma liberté sans qu'on me la donne. J'ai pris ma liberté très jeune et je l'ai gardée.
C'est ça
on ne me l'a jamais repris. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance. Et d'avoir cette chance-là, effectivement, je dis aussi que je suis bien née parce que je prends conscience, effectivement, au regard de l'histoire de toutes ces personnes qui vivent dans des pays très difficiles où la liberté d'être et la liberté d'expression est totalement anéantie. Je mesure à quel point j'ai beaucoup de chance de faire à peu près ce que je veux, quand je veux, et comme vous dites, tout en respectant la loi. Voilà, et tout en respectant, bien sûr, les autres. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le vivre ensemble. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que j'aurais envie de dire. Quoi.
Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Et même question, Chérine. شما خدا اینجا آزاد احساس میکنین یا خیر؟
یک خاطره براتان بگویم. نزدیکای ساعت 10 شب بود که ما از بیمارستان میامدیم. یک دختر خانوم دیدم در روی تخوتینت فکر کنم ایچه میگوین امی اسکوترهای برقی سوار شده بود و اما تا در خیابان تاریکم بود داشت میرفت. به جای از او دختر اقدر من ترسیده بودم که به شوهرم گفتم که تنها میره نمیش که مثلا سوارش کنیم برسانیمش. گفت ایجه مثلا آزادیست و امنیت است، میتونن زنا دخترها نصف شب هر وقت یک کار داشته باشن مجبور باشن بیرون باشن یا سر کار میاین بیرون باشن و نمیتونی کسی را سوار کنی به خاطر چون خودشان در بیرون امنیت دارن. لازم نیست. این برمی یک شوک بزرگ بود چون در جامعه ما وقتی که شب تاریک میشه به مقول خود ما فرهنگ ما هزاران خطر در کمین است و واقعا هم اموتا هست. یعنی اینه که فقط شایع باشه، متاسفانه خطرات بسیار زیادی است در بیرون.
دونک شیرین ایلی راکونتری این سوینیر. دونک سیته 10 هور دو سوار. Il est rentré de l'hôpital à chez elle et pendant le trajet, il a vu qu'il y a une fille toute seule sur la route avec son trottinette. Il était choqué, il a demandé à son mari que tu vois, c'est une fille, il est toute seule le nuire parce que c'était très choquant pour elle. Là-bas, dans le pays d'origine, c'était pas possible parce qu'il y a beaucoup de dangers, pas de sécurité. Et en fait, pour les chérines, il a demandé à son mari si, par exemple, les filles pouvaient entrer dans la voiture et amener jusqu'à la maison. Mais son mari a bien expliqué que non, c'est un pays libre, c'est un pays qui a la sécurité. Et donc, si il y a sécurité dehors de maison, donc c'est pas grave s'ils sortent 10 heures de soir ou 9 heures de soir ou quelque chose comme ça. Donc, pour elle, c'était choquant en même temps, mais eh bien, ils sentent qu'ici, c'est beaucoup plus de liberté que chez elle, dans son pays d'origine. Mais oui, c'est tout à fait ça. Mais est-ce que vous pensez que vraiment, en France, on est dans 100 personnes de sécurité pendant la nuit, déjà pour une fille. Je veux bien poser cette question à Véronique. Je sais qu'il attend, il est dit, c'est à moi qui ordonne. Je sais, mais...
Ça dépend où. ça dépend où. Ouais. Et puis ça dépend si on a peur, ça dépend... Parce qu'en fait, quand vous êtes dans une position de vulnérabilité, de faiblesse, tout de suite, les éventuels prédateurs le sentent. Donc, ils vont direct vers vous, ils vous attrapent, ils vous embêtent, voilà. Moi, j'ai eu l'occasion pour de traverser Paris en long, en large, la nuit,
ça, c'est qu'est-ce seule. Que je voulais poser.
Mm-hmm. J'ai eu deux ou trois fois des problèmes, mais des problèmes comme... si vous voulez, je pense que là, en Occident, en France, c'est des problèmes dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'actualité, c'est-à-dire des problèmes de harcèlement, quoi. Mmh. Donc, de harcèlement de rue. Voilà, on ne cesse de considérer les femmes comme des objets à prendre, quoi. Mmh. Voilà. Et bien donc, effectivement, quand vous parlez de dignité, c'est là-dessus que les femmes se battent. Et je pense que c'est là-dessus que les femmes se battent dans le monde entier. Enfin, quand on voit la lutte des femmes dans le monde, c'est quand même là-dessus, quoi. C'est la liberté, la dignité, quand même. Quoi.
Tout à fait. Merci, Véronique. Et quand on a parlé avec les femmes qui sont tous là et qui sont tous, en fait, ils ont pris son liberté. Parce que quelqu'un qui était là-bas, qu'il ne laissait pas vous vivre librement, qu'il vous poussait, qu'il vous obligeait. Mais aujourd'hui, vous êtes là et vraiment, vous êtes dans la condition d'avoir votre liberté, mais c'est par vous-même, en fait. On est d'accord, c'est ça. C'est pas que quelqu'un nous donne notre liberté, c'est pas possible. Personne, il est là pour donner, quoi. On est là pour prendre notre liberté. Mais malheureusement, c'est comme ça parce qu'on a parlé de humanité, on a parlé de juste. Mais malheureusement, dans le monde, on n'est pas toujours dans un monde idéal. Donc, il faut créer notre monde idéal. Et on a parlé aussi par rapport aux différences, mais je veux bien toucher une... je ne sais pas si on a tant malice ou pas. On va bien toucher un d'arrière-point sur le... Véronique a parlé de racisme. Vous avez aussi parlé d'être pas trop différent avec une femme française. Mais je veux bien quand même toucher ce sujet-là, ce thème de racisme. Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes ici comme personne qui venait de différents
pays? Un crocodile s'en allant à la...
Ça pose problème ici vraiment ou pas? Marwan, on va commencer par vous.
Donc, il y a des choses là. Ça, c'est juste quand le monde va finir, ça ne va pas s'arrêter. Quand on dit racisme, ou bien, il y a des choses là, ça ne va jamais s'arrêter. C'est comme ça. Des fois, même dans ton propre pays, il y a du racisme. Mais des fois, quand tu quittes dans ton pays et puis tu viens dans un autre pays, et puis il faut accepter comme tu es. Par exemple, moi, je suis là, ça ne me cause aucun problème, même si tu me dis noir. Je dis, mais moi, je suis noire. Mais si je ne suis pas noire, je suis qui? Je suis noire. Dans le racisme, là, des fois, moi, quand les gens posent, moi, je me mets même. Je dis, non, ça, là, jusqu'à la fin du monde, ça va jamais se finir. Même dans ton propre pays, il y a du racisme. Même entre vous, il y a du racisme. Mais des fois, mais ici, quand, depuis que je suis là, je n'ai pas subi. Par exemple, je ne peux pas dire, il n'y en a pas. Il y en a si. Mais probablement, ça ne m'a pas arrivé. C'est juste un jour, j'étais dans le bus, il y avait un monsieur français, mais quand même, je n'avais pas appris, chacun à sa manière.
Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Danse, allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ils fredonnaient d'une marche militaire dont ils mâchaient les mots à grosses dents. Quand il ouvrait sa gueule toute entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus.
Oh, yeah, sure.
terre se prépara ce combat de géants. Mais près de là coulait une rivière. Le crocodile s'y jeta subitement. Danse, allez, croc-croc-cro, le croc-croc-cro, le crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-cro, le croc-croc-cro, le crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus.
و بر علیه تمام مهاجرا گپ می زدن و نفرت خود ابراز می کردن. برای من خیلی جالب بود که در هیچ جای دنیا یعنی مخصوصا از جایی که ما آمدیم شاید رفتارهای نجات پرستانه داشته باشن، ولی جرأت از این که بخوان در رسانه‌های عمومی علناً ابرازش کنن خیلی کم است. هیچ کس به خاطر اون حال وجهه بدی که پیدا میکنه این کار در شبکه‌های اجتماعی خود علنا اعلام نمیکنه، ولی اینجا میدیدم که خیلی با افتخار فرانسوی‌ها کار میکردن و خیلی برام جای سوال بود و شوکه شده بودم.
En fait, il a dit que c'est très tôt de répondre à cette question parce que ça fait pas longtemps qu'il est là. Ça fait 10 mois qu'il est là, donc c'est très dur pour dire que si le pays il est raciste, si son race il pose la question ou pas. Mais en fait, il a parlé d'un événement très choquant pour elle. C'était pendant l'élection qui était lieu ici récemment. Il avait racisme. Ça vous dit les personnes qui ont été là contre réfugiés, qui ont exprimé assez librement. Donc, Chérine, il pense comment c'est possible d'exprimer assez librement dans les réseaux sociaux, devant les gens, ils disent, voilà, tu as de telle origine ou tu ne veux pas ici à France. Comment c'est possible? Donc, pour elle, c'était choquant. Il a dit, bien sûr, racisme, il existe partout le monde. Mais pour être assez libre de s'exprimer et être contre quelqu'un comme ça, il montrait que tu détestes quelqu'un. Il pense que ce n'est pas quelque chose de bien de faire contre n'importe quelle origine. Ça ne dépend de pas d'origine. Donc, merci beaucoup, les femmes. Merci beaucoup pour merci être là.
Merci à vous aussi.
On est très contents. Donc, il peut être se rencontrer encore une fois. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. À la prochaine.
À la prochaine.
Mélodie souterraine, une plongée dans les collections des bibliothèques Aglopolis. Avec Jérôme de la médiathèque Maurice Jean.